Bonsoir et bienvenue à tous pour trois quarts d'heure d'analyse et des commentaires de l'actualité en République démocratique du Congo et c'est bien évidemment dans la tribune de presse. Ce soir, les journalistes que nous avons dans ce studio sont Joachim Diana, éditeur du journal La Colombe, un journal qui paraît ici à Kinshasa. Bonsoir Joachim.
Bonsoir Véry.
Joël Kadé Danga qui est en face ou à côté de Joachim. Joël Kadé qui est éditeur du journal Impact News, un journal qui paraît aussi ici à Kinshasa. Bonsoir Joël.
Bonsoir Franck.
Et au téléphone, nous avons Clément Mangoubou, éditeur du journal Mwangaza, un hebdomadaire paraissant à Kisangani dans la nouvelle province de la Tchopo. Clément, bonsoir.
Bonsoir, son frère.
Et au sommaire de cette édition, faut-il encore que le sang coule en RDC? C'est la question qu'a posée jeudi, hier, à Kinshasa, la conférence épiscopale nationale du Congo dans son message pour la réussite du processus électoral. Nous en parlons dans près d'un quart d'heure. Et puis, vous avez suffisamment suivi cette petite incompréhension qui a régné la semaine dernière entre le gouvernement central et l'exécutif provincial de Kinshasa autour de la gestion des immondices. Les deux exécutifs se rejettent la balle quant à l'évacuation des décharges publiques après le départ du programme Paro de l'Union européenne. La tribune de la presse, les débats sont ouverts. Mais comment la presse écrite a-t-elle analysé et commenté l'actualité de la semaine? Élément des réponses avec vous, Kéline Couté, qui signait cette revue de presse.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse par la déclaration de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en sigle, sur le processus électoral. Élections dans les délais constitutionnels, RDC, les évêques catholiques s'inquiètent. C'est la manchette du journal La Prospérité qui note que les évêques en ont assez de voir le sang des Congolais couler. Ils ont adressé hier jeudi à qui de droit un message fort. L'avenir de la RDC réside incontestablement dans la sauvegarde de l'intégrité du territoire national, le respect de la Constitution et la tenue des élections libres et transparentes dans les délais constitutionnels. Et d'après la consoeur, ce message va certainement alimenter la saga politique dans les jours qui viennent. Ce sur quoi embraille le tri-hebdomadaire Congo Nouveau en titrant « Respect du délai constitutionnel, les catholiques dans la rue le 16 février 2016 ». Pour le contraire, le front contre toute manœuvre dilatoire visant à violer la Constitution est engagé par l'Église catholique à travers la CENCO. Dans la même veine, Forum des As signe « Horizon ». 2016, les évêques lancent la croisade. L'avenir, pour sa part, estime que les évêques allument le feu avec leur dernier message au peuple congolais. Le phare, quant à lui, nous informe que les évêques ont fait une sévère mise en garde au pouvoir. Le temps des évêques monte d'un grand titre le potentiel au journal de poursuivre pour la CENCO. Il faut arrêter de faire couler le sang des Congolais. Changeons de chapitre pour parler de la gestion des immondices dans la ville-province de Kinshasa. Le tri-hebdomadaire Congo Nouveau signe insalubrité à Kinshasa. Ça, coupable, Kimbout avait entraîné Matata dans ses ordures. Et il y a du répondant dans le quotidien Forum des As, amoncellement d'immondices à Kinshasa, Kimbuta au banc des accusés. L'insalubrité constatée ces derniers jours dans la capitale est imputable à la ville, souligne un communiqué de la primature. C'est ainsi que l'éditorialiste de Forum des As signe Kinshasa sont mauvais. Kine la poubelle, nous y revoici.
Merci Kéline Couté. Et dans l'actualité de cette semaine, il y a eu quatre ministres devant les députés nationaux jeudi. Parmi eux figuraient Évariste Bouchab, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, qui répondait à une question orale au sujet de la nomination des commissaires spéciaux et la gestion des nouvelles provinces. En réponse, Évariste Bouchab a affirmé que la désignation des commissaires spéciaux ne viole en rien l'article 198 de la Constitution qui renvoie à l'élection des gouverneurs. Une explication qui plutôt fâche certains députés qui continuent à crier à la violation de la Constitution. Alors Joachim Diana, quelle lecture faites-vous de la réponse qu'a donnée le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur sur ce sujet?
Mais tout à fait, les gens qui lisent la Constitution la lisent de façon sélective. Et comment voulez-vous dire que cette nomination violerait la Constitution du moment où cette nomination va dans le sens de l'arrêt de la Cour constitutionnelle? La Constitution est claire à ce sujet, les arrêts de la Cour constitutionnelle sont imposables à tous. Les arrêts, personne ne le discute. Mais aujourd'hui, si cette nomination, parce qu'avant que le président de la République fasse une ordonnance, les ordonnances passent par la Cour constitutionnelle. Si la Cour constitutionnelle n'a pas jugé ces ordonnances anticonstitutionnelles, mais de quoi se mêle le député qui a adressé cette question. Peut-être pour s'informer, pour éclairer la lanterne de tout. Mais ceux qui continuent à dire que ces nominations seraient contre la Constitution, mais ils ont aussi la voici d'attaquer ces ordonnances devant la Cour constitutionnelle. Ils ont le droit de saisir lorsqu'ils estiment qu'il y a une des actions qui a été menée qui est anticonstitutionnelle. La Constitution ne leur demande pas de crier dans les médias. Ils demandent de saisir la Cour constitutionnelle pour l'interprétation de cette loi.
Alors, Joël Kadé, comment expliquez-vous la position de ces députés qui crient à la violation de la Constitution?
La Constitution a été violée par la volonté de ceux qui veulent reculer le pays au moment des nominations, parce qu'après les commissaires spéciaux, ce que Boshab est en train de nous préparer, parce que c'est pratiquement lui le laboratoire de l'axe du mal, désormais depuis la violation, le changement de la Constitution, de deux tours à un tour, voilà. La loi qui avait emporté les vies humaines en janvier, c'est toujours lui. Et là, ce sont les commissaires spéciaux. Nous sommes en train d'étendre après le dialogue vers les députés spéciaux, vers les sénateurs spéciaux, pour finir enfin par un président de la République spéciale. Donc voilà un peu, parce que l'argent qui a été dépensé pour déployer les commissaires spéciaux dans des provinces pouvaient servir à l'organisation des élections pour qu'il y ait uniformité de la gestion des provinces. Là, nous avons 5 provinces qui sont dirigées par les assemblées provinciales et les gouverneurs de province avec le vice-gouverneur. Et nous avons 21 provinces qui sont dirigées par les commissaires spéciaux et les deux commissaires spéciaux adjoints.
Qui
ne répondent à personne de leurs actions. Et c'est là que ça crée un tohu-bohu parce qu'on ne sait pas leurs actions. On a dit qu'il y a un commissaire spécial qui a battu un directeur général de l'ISP à Bandundu. Bon, on va se demander, il va répondre devant qui? Il n'y a pas une assemblée provinciale qui va le juger parce que même Boshab a suspendu le fonctionnement des assemblées provinciales. Donc, on s'est pratiquement engagé dans le complot du chaos, dans le blocage des institutions et on ne sait pas où est-ce qu'on est en train de partir.
D'accord. Alors, Clément Mangoubou, Évariste Boshab affirme que la présence des commissaires spéciaux n'impactait nullement sur le bon fonctionnement des assemblées provinciales. Qu'en pensez-vous?
Bon, moi, je pense que cela n'a pas un impact sur les assemblées provinciales, dans la mesure où ces commissaires spéciaux sont nommés par le gouvernement. Et le gouvernement n'a agi que conformément à la Constitution. C'est la Constitution qui a prévu les découpages territoriaux, l'installation de nouvelles provinces, et ça, on ne peut pas dire qu'on a violé la Constitution, mais il s'est fait que lorsqu'on a installé les provinces ont été découpées, et qu'il y a des morceaux ou des parties qui étaient devenues ingouvernables. Par conséquent, il fallait vite agir pour restaurer l'autorité de l'État, mettre de l'ordre. Je crois que la Constitution n'a nullement été violée, et que cela n'a pas un impact sur le fonctionnement de l'Assemblée provinciale.
Très bien. Alors, puisque vous avez la parole, qu'est-ce qui fait aujourd'hui l'actualité à Kisangani?
L'actualité à Kisangani aujourd'hui, c'est la fin du séjour du ministre de la décentralisation, le ministre d'État, qui vient de quitter Kisangani pour Bounia. Et après 3 jours passés dans la capitale de la Tchopo, il est venu quasiment donner la caution pour l'installation de nouvelles autorités, des commissaires spéciaux. Pour la Tchopo, c'est fait. Et aujourd'hui, il est allé à Bounia. Après Bounia, ce sera l'Ituri et le Basele et le Haut-Tuélé.
Merci beaucoup. Et l'autre nouvelle de cette semaine, c'est le dialogue politique envisagé par le chef de l'État avec la proposition à la clé de 4 noms sur la table de l'ONU. Il s'agit de Saïd Djinit, Kofi Annan, le président Dos Santos et Moustapha Niass. Joachim, comment analysez-vous la proposition de ces 4 médiateurs?
Bon, je constate que le chef de l'État a cherché à sauvegarder ce qui pourrait encore l'être, c'est-à-dire quoi? Au lieu que ce soit un dialogue, 50 ans après l'indépendance, dirigé par les Congolais qui a maintenant des expertises dans tous les domaines, notamment dans les domaines d'analyse des conflits, de conduite, de réunions et discussions, d'organisation des forums, de tout ça. Mais on a estimé que ce soit un étranger. Au moins que ce soit un étranger parmi ceux que nous aurons choisis.
Et vous confirmez que l'UDPS sera parti parce que c'était la proposition de l'UDPS.
Je sais que le chef de l'État ne l'a fait que pour faire en sorte que l'essentiel soit sauvegardé. Le chef de l'État est de l'école politique où on sait choisir l'essentiel à l'accessoire. Aujourd'hui, la désignation d'un médiateur, qu'il soit national ou international, c'est vraiment de l'accessoire. L'essentiel, c'est que le dialogue résolve le problème que nous voulons résoudre. Et le chef de l'État, pesant l'essentiel et l'accessoire, il a choisi pour l'essentiel. Et donc, mais pourvu qu'on ait ne fût-ce qu'une idée, prenez-nous ça, 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 et vous en avez quatre, choisissez-vous. Et l'ONU, je crois que c'est le représentant de le secrétaire général qui sera choisi. Je pense qu'il est mieux placé dans le moment où il est sur place ici. C'est un Africain, puis on n'aura pas besoin de beaucoup d'argent pour le faire venir.
D'accord. Alors, Joël Kadé, comment vous expliquez que ce soit seulement l'UDPS qui est favorable au dialogue avec justement un médiateur et les autres partis politiques continuent à refuser jusqu'à aujourd'hui d'aller à ce dialogue?
Les partis politiques sont des faits privés et qui engagent leurs membres. Et en conséquence, chaque parti est responsable devant ses propres actions. On ne peut pas les juger sur base des options qu'ils ont levées. Nous sommes dans un multipartisme. Mais la plupart des partis politiques qui refusent flirtent avec le pouvoir pour participer au dialogue. Et j'ai aimé la flexibilité du chef de l'État qui a fini par comprendre que l'UDPS avait raison pour accepter le médiateur international parce qu'on ne pouvait pas être et juge et parti dans le dialogue. J'ai beaucoup aimé. Mais par rapport aux quatre noms avancés, Dos Santos, il n'a pas modèle à nous donner, étant entendu qu'il est au pouvoir depuis plus de 32 ans, il ne change pas. Djinit a échoué au Burundi. Kofi Annan a pratiquement participé à l'humiliation de notre pays avec la permission de permettre au Rwanda, à l'Ouganda ou au Burundi d'agresser la RDC. Bon, peut-être encore avec Moustapha Niass, qui a été un des facilitateurs, qui connaît les acteurs, qui connaît la scène, nous pourrions peut-être espérer quelque chose, mais sinon les autres noms qui ont été avancés là, je pense que c'est du bluff, c'est davantage pour enliser le dialogue tant réclamé.
Merci messieurs, et c'est par ici que nous allons entrer dans notre premier thème de la soirée. Faut-il encore que le son en RDC? C'est la question qu'a posée hier jeudi à Kinshasa la Conférence épiscopale nationale du Congo dans son message pour la réussite du processus électoral. Le cardinal, archevêque et évêque, membres du comité permanent de la Synco, se disent tous peinés de constater les restrictions des libertés individuelles, la croissance de la répression et d'intimidation à l'approche des échéances électorales. Pour la Synco, l'avenir heureux de la RDC réside incontestablement dans la sauvegarde de l'intégrité territoriale nationale, le respect de la Constitution et dans la tenue des élections libres et transparentes dans les délais constitutionnels. Le secrétaire général de la Synco, l'abbé Léonard Santédi, le dit à Michel Kifindangoy.
Comme nous l'avons exprimé dans notre lettre en septembre 2014, nous demeurons persuadés que les citoyens et les hommes politiques qui aiment vraiment ce pays éviteront d'engager la nation dans une voie qui risquerait de faire couler davantage le sang des Congolais. Hélas, malgré notre message, en janvier 2015, le sang a encore coulé suite à la tentative de contourner les dispositions constitutionnelles. Il faut arrêter de faire couler le sang. Nous demandons au peuple congolais de faire preuve de vigilance dans l'esprit de l'article 64. Le peuple ne doit pas être pris en otage par un agir politique qui sacrifie l'intérêt supérieur de la nation. Nous invitons toutes les forces vives de la nation à un sursaut patriotique pour assurer la réussite du processus électoral, gage de l'émergence d'un Congo nouveau et prospère.
L'abbé Léonard Santédi était au micro de Michel Kifindangoy. Et vous venez de nous prendre en cours. Sachez que sur ce plateau de la tribune de presse, il y a Joachim Diana, éditeur du journal La Colombe, qui parie c'est Kinshasa. Il est en face ou à côté de Joël Kadé Danga, éditeur du journal Impact News, qui parie aussi à Kinshasa. Et Clément Ngoubou, éditeur du journal Mwangaza, un hebdomadaire qui parie à Kisangani, dans la province de la Tchopo. Alors, Joachim, comment vous analysez cette déclaration de la Synco?
Je l'ai toujours dit, la République démocratique du Congo fait maintenant face à, on dit bien, une opposition plurielle. Et maintenant, il faut bien qualifier ces oppositions. Il y a l'opposition politique que l'on connaît, il y a l'opposition médiatique qu'on connaît, il y a l'opposition confessionnelle qui vient de s'exprimer et on peut y ajouter l'opposition diplomatique il y a quelques semaines. Monsieur Zama, vous savez que je suis dans ce métier, ça fait combien d'années? J'ai suivi la plupart des déclarations de la conférence épiscopale du Congo, à l'époque de Malula et consorts, Irabo et tout. Mais
Quand on lit une déclaration, est une déclaration qui vient d'une église, appuyée des versets bibliques, de la parole de Dieu. Mais pour le moment, quand Santé vous parle, il n'y a aucune différence entre lui et l'Istanga Bonganga. Aucune différence. Et vous ne sentez même pas la différence dans la façon de nuancer les faits pour dire que je suis l'église ouverte, donc il prend des positions de la rue.
Est-ce que l'abbé ne se focalise pas sur les faits qu'il fait?
Mais justement,
la conférence.
C'est ce que j'ai dit, il ne se focalise pas sur les faits, mais sur des positions. Quand par exemple il dit que la loi électorale c'est une façon de contourner la constitution, mais c'est faux et archi faux. Ça c'est une analyse que telle que présentée par l'opposition politique ici. Mais comment on peut contourner la constitution par une loi? Comment une loi organique peut changer une constitution? Nous sommes dans quel pays? Que cela vienne d'un homme comme Santé, représentant une organisation sérieuse comme la SEMCO, mais ça fait pleurer. Et alors, lorsqu'ils disent que le sang ne doit plus couler, et voilà comment la façon de faire couler le sang. C'est la façon pour l'Église qui devrait être la force tampon de se mêler dans la guerre. Et l'Église a fait couler le sang dans ce pays en 2006. Et en 2011,
et vous voulez dire que l'Église catholique fait partie de ceux qui font couler le sang?
Mais tout à fait, je vais vous le prouver. En 2006, le cardinal archevêque de Kinshasa, sur son lit des malades en Belgique, déclare que c'est Jean-Pierre Bemba qui avait gagné l'élection. Et ici à Kinshasa, c'était les Ferzas, c'était les morts. Et c'était sur base de quoi? Et quelle constitution donnait à l'archevêque de Kinshasa le pouvoir de proclamer les élections? Nous arrivons en 2011, la même chose, l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Mosengo, déclare, selon ce, on a volé la victoire de Tshisekedi. C'était des fervences à Kinshasa, c'était des morts à Kinshasa. Mais quelle est la constitution qui donne à l'Église le pouvoir de proclamer les élections? J'ai dit que ça s'appelle débordement des statuts. Vous avez un statut de religieux, restez dans votre statut de religieux, commentez l'actualité politique comme Congolais, mais ne pensez pas que parce que vous êtes évêque, vous avez le droit de faire le travail qui n'est pas le vôtre.
D'accord. Alors, je sens déjà que Joël n'est pas d'accord avec votre analyse, mais Joël, est-ce que la position de la SEMCO n'est pas fondée? Ou la question de la SEMCO n'est pas fondée?
Toute église a pour responsabilité de prévenir les catastrophes lorsqu'ils sont venir. L'église a une mission prophétique et à ce titre, l'église doit sonner l'alarme lorsqu'elle sent que les choses peuvent bousculer. Il n'y a pas entré dans les conceptions des oppositions ecclésiastiques, confessionnelles comme mon confrère aime bien le dire. Je crois que ça dépend de lui, il est libre de le dire, mais là, il y a un problème, le dialogue qui s'annonce. Parce que est-ce que le chef de l'État aujourd'hui, pour décrisper la situation qui est très tendue, a réellement besoin du dialogue pour vraiment organiser bien le processus électoral? Si aujourd'hui, par exemple, le chef s'est levé...
Mais la SEMCO est d'accord pour le dialogue.
Oui, il est d'accord. Si le chef de l'État s'est levé pour qu'on libère les prisonniers politiques, les Vano Kiboko, les Diomi Dongala, les Christopher Ngoï et Muyambo, et ainsi de suite. On les libère, on libéralise les chaînes de télévision fermées, les journaux fermés, on essaie un peu de décrisper la situation, de compresser. Je pense que la situation va se décrisper d'elle-même. Mais là, on sent qu'il y a un agenda caché et que, parce que même pour rapatrier la dépouille mortelle de Mobutu, on n'a pas besoin d'organiser un dialogue, on peut le faire aujourd'hui. Ça a été plus comme une recommandation de concertation nationale la fois passée. Ce qu'on a senti est que l'organisation du dialogue vise l'établissement, donc avoir le quitus de nommer les sénateurs spéciaux.
Mais justement, Joël, est-ce que là n'est pas finalement un procès d'intention qu'on est en train
Cher confrère, nous avons les géologues dans ce monde qui n'ont pour étude que la pierre. Et il dit que quand je vais disséquer cette pierre, je vais obtenir telle conséquence. Nous avons les politologues que nous sommes. Lorsque on regarde le fait politique, on regarde les noms politiques, on sait que à partir de cette action, voilà les conséquences qui peuvent en découler. Mmh. Et les évêques ont réfléchi sur les conséquences qui peuvent découler du dialogue.
D'où ils posent la question.
Au lieu de subir les événements comme au Burundi, comme au Congo-Brazzaville et au Rwanda...
Et même comme chez nous, par rapport à ce que vous disiez ici, Joachim.
Oui, j'avais dit la fois passée ici que les évêques doivent arrêter avec les déclarations, il faut aller en action. Nous avons été dans ce même studio, je vous l'avais dit moi... Je
je bénis Dieu que les évêques aient entendu ma voix pour aujourd'hui annoncer les actions de prière et des actions de terrain des rues, parce que face à un pouvoir qui affiche l'arrogance, face à un pouvoir qui affiche le défi, face à un pouvoir qui affiche l'insouciance, il n'y a que les actions qui peuvent le fléchir, comme le fait Tshisekedi et tant d'autres.
Et Joachim accuse finalement la Cinco de devenir un parti politique.
Non, ce n'est pas un parti politique, c'est l'Église qui a une mission prophétique, c'est ce que je dis. Aujourd'hui, vous regarderez que le premier mandat du chef de l'État, on a construit avec Mouzito. On a construit des routes, des hôpitaux, ainsi de suite. Mais voyez, le deuxième mandat ici, parce que tous les efforts sont concentrés sur la conservation du pouvoir, tout l'argent qu'on sort, c'est pour conserver le pouvoir là. Il n'y a aucun effort que l'on fournit pour construire encore les routes. Toutes les routes sont détruites, sont détériorées. Kinshasa n'a plus de routes. Hein, aujourd'hui, faites circuler, parce que vous avez été expert en cela. Voyez que Kinshasa n'a plus de routes. Vous allez voir que depuis un temps maintenant, ce sont des actions de frappe-l'œil, avion et Congo Airways, et des histoires qui ne sont même pas assorties des prévisions budgétaires.
D'accord. Alors Clément, comment vous, à partir de Kisangani, cette déclaration a été perçue?
Oui, je note d'abord que l'Église catholique est une association, elle devrait être apolitique, parce que là-dedans, vous avez des gens de l'opposition, des gens de la majorité, des gens de la société civile, en tout cas des gens de tout acabit. Et je note aujourd'hui que l'Église est en train de glisser elle-même, parce qu'elle n'est plus au milieu du village, mais elle prend position comme une opposition. Ce qui n'est pas normal. L'Église devrait se comporter à l'image de son autorité spirituelle, Jésus-Christ. Jésus-Christ ne s'est pas opposé au pouvoir établi. Lui, il a distingué les choses. À Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Mais l'Église catholique aujourd'hui ne distingue pas les choses. Il n'y a pas de César, il n'y a pas de Jésus. Mais il y a une sorte d'énervement contre les pouvoirs en place. Nous voulons bien. L'Église peut contribuer à amener la paix, à consolider la paix. Nous voulons bien. Mais aujourd'hui, l'Église catholique s'est constituée en une sorte de parti politique. C'est dangereux. Vous vous souvenez, hein, si nous pouvons revenir aux dispositions intangibles,
oui,
que le Congo prend toujours, à la conférence nationale souveraine que le cardinal Moutengo a dirigée, il a été dit que plus personne ne prendrait le pouvoir par les armes. C'était vraiment intangible. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Pour des raisons, pour des impératifs de sauver le Congo de la dérive totalitaire, pour que le pays ne sombre pas, qu'est-ce qui a été fait? Les armes ont parlé et la population a approuvé les changements. J'ai dit ceci que ce qu'on ne peut pas changer, c'est la Bible. Mais pour ce qui est de l'œuvre humaine, il y a des choses qui peuvent évoluer.
D'accord. Alors Clément, oui Clément, donc, Clément s'il vous plaît, on concentre.
Si j'ai un conseil à donner à l'Église catholique, c'est de lui demander de prendre un peu de recul. Parce que l'Église a une responsabilité dans la marche du 16 avril, du 7 février.
Oui Clément, Clément écoutez, quand t'écoutes aussi.
On ne sait pas ce qui t'est arrivé, mais l'Église ne doit pas parler de sang. L'Église doit parler de la paix,
d'accord,
de la cordialité, de la convivialité.
Oui, Clément, qu'on se comprenne. Maintenant, comment comprenez-vous la position ou l'invitation de la Cinco à toutes les forces vives de la nation pour un sursaut patriotique par rapport au respect de la Constitution de la République? Parce que c'est ça aussi un des messages clés de la déclaration de la Cinco. Rapidement.
Bon, jusqu'à là, je n'ai pas vu quelque part où les gens ont décidé de violer la Constitution. Ce sont des idées qu'on prête à d'autres personnes. Je crois que ce n'est pas normal. Il faut marcher avec les autres, il faut évoluer avec les autres et voir ce qui s'est fait. Mais il ne faut pas prédire ce qui va arriver alors que cela n'est pas arrivé, justement.
D'accord.
Je crois que l'Église doit se calmer. L'Église, aujourd'hui, doit nous indiquer la manière d'aller au ciel. Mais pas nous indiquer la manière d'aller la catastrophe.
D'accord, merci. Alors, on revient ici au studio. Joachim, dans la majorité au pouvoir, on estime que l'Église, dans ses déclarations, est allée un peu loin. C'est pratiquement ce que vous avez dit, mais est-ce que vous n'approuvez pas finalement le concept du respect de la Constitution, surtout dans le contexte où nous sommes?
Ben, vous savez que jusque-là, le respect de la Constitution, c'est tout le monde qui doit le faire. et aussi l'Église doit respecter la Constitution. Je l'ai dit ici, à deux législatures, deux processus électoraux, les évêques se sont transformés en cénis pour proclamer les résultats. Ça, c'est violer la Constitution. Je viens d'entendre l'abbé Santédi parler de l'article 64. Et il en parle comme en parlent les politiciens, sans y aller jusqu'au bout. Cet article-là, dans son alinéa 3, dit clairement que personne ne peut prendre le pouvoir par la force. Et
mais ce n'est pas l'Église qui prétend vouloir prendre
le pouvoir. Mais l'Église demande aux gens de descendre dans la rue. Et lorsqu'il parle comme politicien, sans aller jusqu'au fond de l'explication de cet article-là, il tombe comme le dirait Lisanga Bonga, comme le dirait...
Alors maintenant, qu'est-ce que l'article 64 alors de
l'article
la Constitution?
L'article 64 demande...
Pour éclairer l'opinion.
Tout à fait. L'article 64 demande à la population de protester contre quiconque prend le pouvoir par la force ou l'exerce par violence.
Et aussi d'être vigilant.
Mais juste, c'est ça, être vigilant.
Voilà.
De mettre en échec quiconque prend le pouvoir par la force ou veut l'exercer en violation de la Constitution actuelle. Mm-hmm. Dans son alinéa 3, il dit que toute prise de pouvoir par la force est interdite et sera considérée comme un crime et un crime incrépstible. Donc, c'est-à-dire que des années, on vous jugera pour avoir pris le pouvoir par la force. Mais lorsque les gens parlent ici de l'article 64 pour eux, oui, il faut aller, le schéma burkinabé, il faut ceci. Alors, le schéma burkinabé ici, c'est violer la Constitution. Et je voulais dire ceci.
Et donc, en un mot, est-ce qu'on peut dire que la déclaration de la CENCO ne nous emmène pas dans la voie de la paix?
Non, tout à fait. La CENCO devrait prendre des positions. Ici, il y a ça, il y a ça, voici le milieu et indique la vérité. Ici, la CENCO prend fait et cause pour les déclarations de l'opposition ici. Pour la CENCO, on est en train de violer la Constitution, ça va. Pour la CENCO, il prend à son compte le rapport de l'histoire de la MONUSCO, ici quoi, le bureau conjoint de la MONUSCO, ah, il y aura multiplication de violences. Est-ce qu'on peut lui demander de le comptabiliser, de donner les statistiques? La CENCO est incapable. Mais tout simplement, la CENCO, lorsque le berger se nourrit des ondits, ça devient en danger et c'est là où on va exactement vers la mort. J'apprends ici que le rôle prophétique, qu'est-ce que le rôle prophétique? Moi, je suis catholique, lui ne l'est pas. Le rôle prophétique, comme on l'enseigne dans l'Église catholique, un prophète doit pouvoir annoncer, dénoncer et agir. Ce sont les trois missions.
Mais dans le cas concret, je pose maintenant la question à Joachim, est-ce que l'Église n'a pas annoncé, dénoncé et...
Mais je voulais d'abord dire ceci, l'Église elle-même n'est pas démocratique. Cette Église ici, elle est en train de revenir après le Vatican II, qui nous avait mis fin à l'Église pyramidale, où au sommet on décide. Les évêques, la position là, c'est la position de qui? Est-ce que vous allez voir que dans la majorité, par exemple, je prends la majorité, supposons que la majorité était pour la révision de la Constitution, mais dans cette majorité, il y a au moins 50% de catholiques. Est-ce que l'évêque les a écoutés?
D'accord. Alors, est-ce que Joachim, Joël peut nous dire, avec la position de la CENCO, avec la déclaration de la CENCO sur l'appel à la population d'être vigilant, est-ce que ce n'est pas une façon d'attiser aussi le bain de sang comme l'évoque Joachim?
Le titre de la déclaration de la CENCO, il ne faudrait plus que le sang coule. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est pour prévenir que le sang coule qu'on parle. Aujourd'hui, je suis un peu surpris. J'aurais dû accepter encore les positions de Diana que je connais, mais Christian à Kisangani me surprend d'une manière très très désastreuse.
Clément me
déçoit d'une manière très désastreuse aujourd'hui, parce que c'est comme si les évêques là vivent au ciel, ils ne sont pas des citoyens congolais, ils n'ont pas de droits et devoirs civiques, ils n'ont pas de droits civils et des droits politiques, eux ne peuvent pas parler, eux ne peuvent que prêcher l'évangile, parce qu'eux vivraient au ciel lorsqu'on prendra le pouvoir. Par force, comme on a nommé les commissaires spéciaux là. Lorsque les commissaires spéciaux vont commencer à poser des actes parce qu'ils ne répondent que de la personne qui les a nommés, c'est comme si eux, les abbés là, ils vont acheter leurs histoires au ciel, au septième ciel, chez Ange Gabriel, chez Ange ceci et cela. Ils n'ont pas le droit, ils ne vivent pas sur cette terre. Ils ne connaissent pas les réalités de la terre, ce sont des anges. Non, s'il vous plaît, très chers confrères, il faudrait que l'on se comprenne. L'Église prévient. L'Église dénonce, l'Église annonce et l'Église donne les orientations. Les orientations, c'est quoi? À partir du 8, on observe une veine. Nous allons entrer en prière pour prier pour la paix, pour l'unité. Et ce que l'on veut est que l'on garde l'intégrité territoriale
qu'on garde la Constitution et que mon frère dit que non, il n'y a que la Bible qu'on ne peut pas changer. S'il vous plaît, la Constitution, c'est un pacte social qui permet que nous ayons la paix. Vous avez vu la première révision constitutionnelle appelée la révision Bouchard, qui est partie de deux tours à un tour du scrutin présidentiel. Or, au second tour, les gens pouvaient se retrouver auprès des deux candidats qui sont venus en lice et on pouvait créer une cohésion nationale autour de ces deux personnes. Mais depuis qu'il y a eu cette révision constitutionnelle, voilà aujourd'hui que nous avons un président d'ailleurs qui a gagné avec beaucoup de voix, 48 voix, mais vous, 48%, mais vous sentez que la cohésion, on ne sait pas l'obtenir. Qu'aujourd'hui, au lieu de se consacrer à la reconstruction du pays, on se voue maintenant dans des actions de tape-l'œil et on se voue à des actions pour conserver le pouvoir et on ne s'occupe plus des routes qui étaient pratiquement un des chantiers les plus prioritaires du chef de l'État. On ne s'occupe plus des soins de santé, on s'occupe plus. Qu'on révise la Constitution. Berry Franklin Lutsiaka, dites-moi. Qu'est-ce que cette constitution, en quoi cette constitution a empêché que les études primaires soient gratuites comme c'est consacré dans la constitution? En quoi cette constitution ne vous a pas permis d'accorder l'eau et l'électricité à la population? En quoi cette constitution ne vous a pas permis d'ouvrir la route pour aller jusqu'à Dekesse? Dekesse n'a jamais connu les cinq chantiers de la République.
En termes clairs, vous estimez que l'Église catholique a tout à fait raison dans sa déclaration?
En tant qu'Église, parce que l'Église est constituée des gens ayant l'eau et le sang dans leur corps, pouvant également être victime des conséquences néfastes de la confiscation du pouvoir par quelques individus aujourd'hui là, parce qu'ils veulent confisquer le pouvoir, ils pourront également subir ces conséquences-là, alors ils préviennent.
Et donc,
on prévient
ils ne
par la
pas
prière,
être, ils ne sont
et
pas...
la population doit rester vigilante. Mon frère, je vous ai toujours dit, la population congolaise, ce n'est pas n'importe quelle population, comme on l'a toujours dit. Pendant la colonisation, pendant qu'on coupait les bras des Congolais, les Belges, mais ils sont descendus sur la rue pour réclamer leur indépendance. Et de la même manière, vous tuerez le premier jour, vous tuerez le deuxième jour. L'UDP, ça a marché hier ici. Il n'y a pas eu de mort. Les étudiants de l'IBTP, de l'Académie des Beaux-Arts, ils ont marché. La police est venue, il les a encadrés, il n'y a pas eu de blessures, il n'y a pas eu de morts. Je crois que la police nationale congolaise aura pour responsabilité d'accompagner les manifestants comme lorsqu'on fait les marches de soutien au chef de l'État. Là. C'est la mission qu'aura la police pour que la population puisse manifester. On ne va pas tuer quelqu'un. Si la population la marche, vous ne tirez pas sur elle. Est-ce qu'il y aura des morts?
Non, il n'y aura pas des morts. Alors, voilà. On va finir avec cette dernière question que je vais poser à Clément. Clément, avec la nouvelle déclaration de la CENCO, est-ce qu'on ne présage pas finalement une issue heureuse vers le dialogue et les élections de 2016? Très rapidement, parce qu'on doit entrer dans le deuxième thème.
C'est dans les dialogues que les choses vont se préciser. Et vous avez vous-même constaté que les pouvoirs en place accepter la médiation internationale comme réclamée à corps et à cri par l'opposition et la société civile. Alors, vous comprenez que les choses sont en train d'être concédées. Et c'est dans les dialogues que va se dégager un consensus autour des élections. Élections ou pas, mais c'est dans les dialogues. Mais maintenant, il ne faut pas présager des choses macabres. Ça, ce n'est pas normal.
D'accord.
Il faut plutôt venir au dialogue, parler, donner des arguments, convaincre, au lieu de prédire la catastrophe.
Merci beaucoup. Et tout de suite, nous entrons dans notre deuxième thème de la soirée qui concerne les immondices. Une incompréhension, vous l'avez suivi cette semaine, une incompréhension a régné la semaine dernière entre le gouvernement central et l'exécutif provincial de Kinshasa autour de la gestion des immondices. Selon le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, l'accumulation des immondices dans les décharges publiques est causée par le non-paiement des frais nécessaires pour leur évacuation. Mais le gouvernement central ne l'entend pas de cette oreille, affirmant que cette situation revient à la charge de l'exécutif provincial. Explication avec vous, Blaise Makassi.
C'est par communiqué interposé que les deux institutions se rejettent la responsabilité de la gestion des immondices à travers la ville de Kinshasa après le désengagement de l'Union européenne en août dernier. En premier, c'est le gouverneur de la ville de Kinshasa qui a fait une sortie médiatique en affirmant que le gouvernement central avait pris l'engagement de financer à hauteur de 800 000 dollars américains par mois les travaux d'évacuation et d'enfouissement de ces immondices durant une année. Après avoir payé pour l'exécution du travail au cours du premier mois, a indiqué André Kimbuta, le gouvernement n'a pas honoré son engagement. Face à ces accusations, le gouvernement central n'a pas tardé à réagir en insistant que l'assainissement, la collecte et l'évacuation des immondices en RDC relèvent des gouvernements provinciaux. Dans son communiqué de presse publié vendredi dernier, la primature affirme que la situation des salubrités constatée ces derniers jours à Kinshasa est imputable à l'hôtel de ville de Kinshasa. Selon ce communiqué, le gouvernement provincial de Kinshasa avait confirmé sa disponibilité d'assurer la relève de la gestion des immondices dans la ville une fois que l'Union européenne se serait retirée. Par ailleurs, la primature reconnaît dans son communiqué une période transitoire de la reprise du projet par la ville. Pour garantir cette transition, le communiqué mentionne que le gouvernement central avait consenti le décaissement ponctuel de 640 000 dollars en faveur de l'hôtel de ville de Kinshasa et que la quote-part des 164 000 dollars de l'hôtel de ville de Kinshasa qui devrait y être ajoutée n'a jamais été versée. Mais la problématique de la gestion des immondices ne pose pas problème seulement à Kinshasa. Dans les provinces, ce sont des mairies qui gèrent cette question de salubrité. Si à Lubumbashi, la mairie essaye de mieux gérer cette question à travers une brigade d'assainissement qui évacue presque chaque semaine les immondices, ce n'est pas le cas à Kisangani, Mbujimayi et Goma. À Kisangani, ce n'est qu'au marché central où la mairie essaye d'évacuer les immondices et ailleurs, ce sont les privés. À Mbujimayi, les décharges publiques n'existent pratiquement pas et c'est la même chose à Goma où la population ne sait pas où elle doit évacuer les immondices.
Merci Blaise Makassi. Joachim, comment vous avez analysé cette guéguerre entre l'exécutif provincial et national sur la gestion de ces immondices?
Ben, c'est tout simplement ridicule. Et nous aussi, sans être l'Église pour prédire, nous avons été prophétiques lorsque nous avions vu le Premier ministre dans la ville de Kinshasa inaugurer des poubelles. Et finalement, nous nous sommes posé la question dans notre journal, ces poubelles inaugurées par le gouvernement central, qui va les gérer? Qui va voir cette poubelle ici n'est plus en bon état? Parce que la ville n'est pas intéressante. Et finalement, la preuve, passée sur le boulevard du 30 juin, vous trouverez que beaucoup de poubelles n'existent pratiquement plus. Mm-hmm. Il y en a qui sont pleins, personne ne veut vider. Mais pourquoi? Parce que on sait très bien, selon la loi, que le travail d'évacuation, c'est le travail des municipalités. Et même, à part le gouverneur, ça devrait descendre de bourgmestre et ainsi de suite. Mais, à Kinshasa, lorsque l'Union européenne amène un projet qui concerne le travail de gouverneur, a-t-on responsabilisé le gouverneur?
C'était signé entre le ministre des Finances.
Mais tout à fait, c'est l'État.
Et, oui, voilà.
Mais tout à fait, parce que l'Union européenne a comme correspondant ici le gouvernement central. Alors, le gouvernement central devrait tout de suite après dire que oui, nous signons, mais voici l'exécutant.
Ce qu'il n'a pas fait.
On a fait l'exécutant, la BESECO. Et maintenant, plus personne ne parle de BESECO. Mais qui a géré ce projet-là? Plus personne ne parle de projet. Vous savez que si c'était l'hôtel de ville qui avait été responsabilisé dans ce projet-là,
depuis
qui avait travaillé avec ce projet-là, on n'aurait même pas besoin de transition.
D'accord.
Alors, ça serait la continuité. Et maintenant, sachant que ça devrait chercher à avoir. Et puis, on demande au gouvernement central de donner aux provinces les fonds d'investissement. Avec ces fonds d'investissement, le gouvernement peut dire que je vais créer les décharges, je vais acheter ceci pour transformer les sachets, ainsi de suite. C'est de l'argent. C'est aux provinces de choisir les priorités pour eux. Ce n'est D'accord. pas au gouvernement central. Il ne dit pas seulement les décharges, mais il y a aussi les écoles et tout ça. Ce sont les provinces qui doivent construire. Mais pourquoi le gouvernement central continue à construire?
D'accord. Alors Joël, comment vous avez analysé ce ping-pong? Est-ce que qui doit prendre la charge des décharges publiques? Est-ce le gouvernement central ou l'exécutif provincial?
L'assainissement comme l'éducation, comme venait de le dire mon confrère tantôt là, c'est du ressort du gouvernement provincial.
Pour une fois, vous êtes d'accord.
C'est déjà bien indiqué. Mais écoutez, quand l'Union européenne donne le financement, et aujourd'hui chez nous, tous les politiciens, quand ils accèdent aux fonctions politiques, ils se font passer comme des commerçants. Ma tata aurait chargé son épouse pour créer des ONG d'assainissement en vue de bénéficier de cet argent-là. C'est là où vous avez vu un Premier ministre qui semble ne pas connaître son travail, qui va quitter pour venir inaugurer, mon copain l'a dit, les poubelles, et il va s'occuper, je l'ai même vu, devant certains immondices, certaines montagnes, qu'il aille le faire à Kikwit, qu'il aille le faire encore aussi à Chikapa. Je l'ai vu dans les constructions anarchiques, un Premier ministre descendre. Là, je me dis, mais nous n'avons pas de Premier ministre qui sait ce qu'il doit faire. Alors, il a pris tout cet argent-là. Et aujourd'hui que le financement a été retiré, c'est là où je dis que c'est la honte, c'est l'opprobre pour un gouvernement qui ne sait pas ce qu'il doit faire, très cher confrère. Comment est-ce que pour balayer la maison, vous devriez attendre que l'étranger vienne balayer votre maison, prendre les saletés, aller jeter pour vous. Et quand
L'étranger quitte, vous êtes incapable aujourd'hui. Kinshasa est pollué, Kinshasa sent mauvais, tout simplement parce que l'étranger est parti.
Mais quand
les diplomates britanniques vont vous dire que non, il faudrait prioriser les élections présidentielles et législatives, vous dites non, Mende va sortir, non, nous sommes un pays souverain. Un pays souverain incapable de balayer sa propre maison, incapable d'évacuer sa propre poubelle, il faut que l'étranger vienne balayer pour vous et vous allez dire que vous êtes un pays souverain. S'il vous plaît, arrêtez ces choses comme ça, que ma tata puisse laisser les fonds d'investissement aux provinces. Il a tout bloqué, il a tout centralisé. Il se va mal. Qu'il fasse le travail du Premier ministre, qu'il laisse le gouvernement provincial faire le travail. Aujourd'hui, il a bloqué toutes les provinces. Aucune province n'entretient ses routes à cause de Matata.
D'accord. Alors, très rapidement, Clément, comment chez vous les immondices sont-elles évacuées et déchargées? On sait qu'il n'y a pas, il n'y a qu'à au marché central qu'il y a qu'on évacue un peu les immondices. Est-ce qu'ailleurs, dans les autres communes et tout ça, les choses se passent normalement bien?
Non, les choses se passent très mal. Les communes avaient acquis des camionnettes pour des véhicules pour l'évacuation des immondices, mais un mois après, on n'a plus revu une seule camionnette dans les centres-villes ou dans les communes. Et les camionnettes, là, étaient en train de transporter des marchandises ou d'autres biens. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les immondices ne sont pas évacués. Les gens prennent les immondices et les déversent dans les rigoles, dans les caniveaux. Ce qui fait que tout est bouché, ça sent mal et lorsqu'il pleut, la ville est inondée et les gens patochent dans l'eau.
Ils ont la
fièvre typhoïde, ils ont la malaria. Donc, ils tombent malades. Je crois que là, c'est un problème que les municipalités, la mairie, où le gouvernement devrait s'y pencher très sérieusement. Parce que ce qui se passe est ridicule. Il y a des privés qui essayent de passer dans des parcelles pour évacuer les immondices moyennant de l'argent, mais ce n'est pas ça qui devrait se faire.
Et ça sera aussi votre conclusion. Et nous allons aussi, pour conclure, parce qu'on arrive pratiquement à la fin de notre émission, Joël Cadet, est-ce qu'il fallait finalement arriver à ce genre de sortie médiatique pour arriver à décharger les poubelles publiques? Parce qu'on remarque quand même qu'il y a des travaux qui sont en train de se faire pour décharger les poubelles.
Non, très cher confrère, moi je crois qu'il y a lieu que notre gouvernement ait pitié de la population, qu'on arrête un peu de tout politiser, qu'on essaie un peu de s'occuper de cette population. Donc on est entré dans une insouciance totale. Aujourd'hui, il n'y a plus de routes, les poubelles, là, ça ne va pas, les routes sont inondées quand il pleut, il faudrait se faire transporter dans les pousse-pousse ou sur le dos des gens pour traverser. Qu'on ait quand même pitié de cette population, ils ont eu de l'argent pour cela. Qu'on n'ait pas un gouvernement qui ne fait qu'extorquer son peuple, voler l'argent des impôts et consorts et ils orientent ça vers leur propre poche, qu'ils réorientent cet argent-là dans l'investissement, qu'ils construisent pour le peuple. Qu'on arrête de prendre tout l'argent pour la conservation du pouvoir, mais qu'on essaie quand même de reconstruire ce pays. C'est ce que nous attendons de Papa Kabila.
Merci beaucoup. Alors, Joachim, un dernier mot pour conclure cette émission.
Bon, j'aimerais dire ceci en demandant à Kader pour savoir que la souveraineté n'exclut pas la coopération. Il y a entre les États souverains ont mis en place des mécanismes de coopération entre eux. Lorsque les États coopèrent, cela n'enlève en rien la souveraineté. Alors, et c'est là, mais ces lois-là interdisent l'ingérence. Mais lorsque vous allez avec proposition acceptée, c'est tout. On a accepté les immunités, on a le droit de refuser les injections en ce qui concerne les élections.
Merci beaucoup.
C'est notre droit, notre liberté.
Et c'est la fin de la tribune de presse de ce soir. Bob Landouti à la prise des sons, qui l'écoute à coordonner cette émission, supervisée par Julien Nyamouni. Derrière ce micro, c'était Berry Fonkaloushaka qui vous remercie de nous avoir suivis. Des remarques et suggestions, écrivez-nous à dec@radiocapi.net. N'oubliez pas de retrouver votre émission sur www.radiocapi.net.